Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est 9h40, nous sommes tous ensemble sur France Inter et c'est l'heure de l'instant M.
Vous vous coupez ?
Non, je
vous
garde.
Vous êtes en direct, allez-y.
Du tentaculaire site Usinor, fleuron de l'acier français, il ne reste rien. Une friche industrielle plantée dans une petite ville du Nord où le taux de chômage des jeunes dispute la vedette au score du Rassemblement national. Le vote et le chômage, une France médiatisée par le biais de ses statistiques. Mon invité s'y est arrêté, il a vu, il a vécu, il a photographié. Le roman national s'est fracturé, il méritait d'être mis en images et en mots. Ça donne un remarquable roman photo, forme étonnante, détonnante même, pour raconter les racines de la colère, celle d'une population qui ne peut plus avancer dans une société où l'on ne glorifie que la vitesse et la mobilité.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour à vous, Vincent Jarousseau.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes photographe et documentariste. Les racines de la colère, 2 ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche, est sortie tout récemment aux arènes. Ça fait des jours et des jours qu'on veut vous recevoir dans l'instant M, donc on attend que l'actu se calme un petit peu. Donc je suis très contente de vous avoir ce matin avec nous. Avant cela, il y avait eu un premier roman photo qui s'appelait L'illusion nationale. Donc enquête cette fois-ci, toujours avec cette forme détonnante dans les méandres, les coulisses et les aléas du vote frontiste. On va en reparler avec vous dans un instant. Il y aura peut-être un troisième volet.
Oui, il y a un troisième volet. On l'espère.
La Sainte Trinité.
Peut-être pour la présidentielle de 2022, justement.
Ouais. Et alors, quel sera le fil rouge ?
Alors, écoutez, pour l'instant, je suis en train de définir ce projet. C'est encore un peu tôt pour en parler. Ouais. J'aimerais travailler peut-être sur l'électorat d'Emmanuel Macron de 2017, qui ne sera pas forcément celui de 2022.
Ben, on va voir s'il est toujours en marche. Comme chaque mardi matin, Xavier Delaporte à mes côtés. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia.
Avec
bonjour
sa
à toutes
fenêtre
et à tous.
De la porte, la fenêtre numérique. Et ce matin, Xavier, elle s'ouvre sur...
Eh bien, sur les animaux. Car, vous le savez peut-être, Internet a la passion des animaux. Alors, sans même parler des emblématiques vidéos de chats qui pullulent depuis des années, ou même des comptes spécialisés dans la diffusion d'images animalières comme Nature is Amazing, que je vous recommande. J'ai vu passer dans la journée d'hier... Ouais, vraiment. J'ai vu passer dans la journée d'hier de jeunes ours s'esbaudissant dans la neige des Pyrénées espagnoles, ou alors la photo d'un oiseau pris dans un parc américain, celle d'un joli gecko, ou même le son d'animaux marin dont le plongeur qu'il a enregistré se demandait ce qu'il signifiait. Alors étonnamment, Internet est sans doute devenu notre plus grand bestiaire. Et c'est même un bestiaire d'un genre nouveau parce qu'on y voit ce qu'on ne voyait jamais auparavant, des comportements d'animaux domestiques si singuliers qu'il faut les vidéos de leur maître pour y croire, par exemple les chiens qui imitent les positions de yoga, moi j'adore ça, des images d'animaux sauvages captées miraculeusement par des promeneurs et d'autres que permettent de saisir les technologies d'aujourd'hui, les drones, les caméras placées sur un oiseau en vol aussi, ou les caméras à visée nocturne qui filment ce que font les animaux la nuit, etc. Ces images sont très partagé, très liké, je n'aurais pas dit il y a 10 ans que la nature serait si présente dans les réseaux. Et voici qu'il y a 3 jours, un groupement d'experts publie un rapport terrifiant. Près d'un million d'espèces vivantes sont menacées d'une extinction prochaine, 25% des mammifères, 19% des reptiles, 13% des oiseaux, etc. Conséquence directe des activités humaines. Les internets, en tout cas ceux que je fréquente, ne parlent plus que de ça. Et moi je me pose une question. Ça fait un petit bout de temps déjà que cette 6e extinction de masse est à l'œuvre sans que cela ne déclenche rien. Y a-t-il un lien entre notre inaction spectaculaire et notre passion numérique pour les animaux et la nature ? Alors, évidemment, il y a des causes très profondes à cette extinction qui tiennent à notre modèle économique, notre mode de vie, etc. Mais depuis quelques années, les chercheurs y ajoutent ce qu'ils appellent l'extinction de l'expérience de la nature ou amnésie environnementale générationnelle. En gros, notre expérience de la nature diminuerait de génération en génération parce qu'on a moins de contact direct avec la nature, mais aussi parce qu'elle fait moins partie de nos imaginaires. Par exemple, une chercheuse française a étudié les films Disney et a constaté la présence des scènes de nature diminuait d'année en année entre 1937 et 2010. Cette amnésie environnementale générationnelle est dangereuse parce que on en vient à considérer comme normal un état de nature qui en fait est déjà très dégradé. Mais elle est dangereuse dangereuse aussi. Parce que quand il s'agit de passer à l'action, c'est l'expérience de nature, c'est-à-dire le contact, les souvenirs, qui mobilisent beaucoup plus que le fait de savoir scientifiquement que la biodiversité est menacée. Alors je me demande, est-ce que la passion d'Internet pour les animaux est un signe supplémentaire que nous n'avons plus qu'un rapport lointain avec la nature, un rapport par l'image, par l'écran, et que c'est donc une raison supplémentaire de s'inquiéter? Ou alors, cette passion, somme toute assez récente, est-elle le signe d'un émerveillement renouvelé, notamment chez les plus jeunes qui grandissent dans les réseaux? Un émerveillement qui passe par les images, mais aussi par plein d'autres choses, comme ces chaînes YouTube hyper pointues qui ajoutent une dimension participative, parce qu'on peut y apprendre à reconnaître les plantes ou à cuisiner les herbes. Que la technologie participe même un tout petit peu à aider la biodiversité serait une belle ironie de l'histoire.
Et si cette passion animale numérique n'était pas qu'un gigantesque manque affectif de l'humanité?
Ah ouais, ça c'est une autre hypothèse psychopathologique.
La semaine prochaine, Xavier. Vincent Jarousseau est mon invité.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Le héros type, comment le définissez-vous?
En général, ce sont des hommes qui s'occupent d'amour, c'est-à-dire pour qui l'amour tient une grande place dans la vie. Et c'est probablement ce qui fait le succès de nos publications, c'est parce que dans la vie, ça n'est pas tout à fait comme ça. Dans la vie, les hommes sont beaucoup plus attachés à leur carrière et à leur profession en général qu'à l'histoire d'amour. Alors là, évidemment, on pourrait dire que c'est une petite tromperie, mais en réalité, c'est une espèce d'évasion, une espèce de compensation que nous apportons aux lectrices qui cherchent ça. Et c'est au fond l'équivalent des romans de Delis ou de Magali que les jeunes filles d'autrefois lisaient, parce qu'on y trouvait le prince charmant, mais maintenant le prince charmant il est dans les romans photos.
Le prince charmant est-il toujours dans les romans photos? Le roman photo fut, Vincent Jarousseau, l'un des piliers de la culture populaire française, et pas seulement française, parce que c'est né en Italie. Dans les années 50, Nous deux se vend à 1 million d'exemplaires. Dans les années 60, un Français sur trois lisait du roman photo. Le roman photo, à l'origine, est un roman photo sentimental. C'est un genre phare pendant les 30 Glorieuses, hors Denain, la ville dans laquelle vous vous êtes installé pour photographier et pour écrire, vit en quelque sorte elle aussi, sur les traces de ce passé glorieux, à l'époque où le roman photo triomphait.
Oui, alors pour les plus âgés des habitants de Denain, ouais. Puisque ce souvenir effectivement des 30 Glorieuses est encore présent dans la tête des anciens, voilà, des personnes relativement âgées, chez les plus jeunes, malheureusement ces traces ont en partie, disparu, même s'il reste parfois des bribes de souvenirs. Hein. Je pense par exemple à Loïc qui parle de son grand-père qui était mineur, et c'est vrai qu'on a aussi un peu effacé ces traces du passé.
Alors, vous l'utilisez, cette forme du roman photo, dans un registre documentaire, donc oui. C'est très inhabituel. Et c'est d'autant plus percutant que son esthétique sert d'habitude à la fiction à l'eau de rose. Vous jouez, justement, sur ce côté inattendu, sur ce contraste, sur ce détournement?
Je sais pas si je joue. En fait, c'est une forme avec laquelle je trouve beaucoup d'avantages par rapport à ce que je veux raconter, tout simplement, dans mes livres. C'était déjà le cas avec l'Illusion nationale précédemment. L'idée, c'est véritablement d'emmener le lecteur au plus près de ses familles, au plus près de ses personnages, qui ne sont pas des personnages fictifs, qui ont des choses à dire. Donc, concrètement, par exemple, dans les bulles, ce sont des paroles qui ont été enregistrées, retranscrites.
Ah vraiment ?
Oui, et alors qui ont été un peu nettoyés parfois dans la syntaxe, mais que j'ai fait in fine valider par les protagonistes. C'est-à-dire que les protagonistes de ce livre, hein, Les Racines de la Colère, sont d'une certaine manière les co-auteurs de cet ouvrage. C'est eux, quelque part, qui livrent leur propre vie dans ce livre.
Voilà, alors j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble à ce rapport très intéressant du texte et de l'image, oui. Justement, que vous mettez en œuvre depuis deux ouvrages dans cette forme de roman photo, de documentaire photo. Quelle place pour ce qu'on montre, quelle place pour ce qu'on raconte? On a l'impression que la télévision, c'est quelque chose dont on parle souvent dans l'instant M, a cessé quelque peu de montrer, que les images servent assez peu aux téléspectateurs à la télévision, que tout est raconté en voix off, tout est raconté dans le commentaire.
Dans le commentaire et d'une certaine manière dans l'interprétation.
Oui.
On parle à la place beaucoup des
oui,
autres finalement.
Oui, oui.
Moi, l'une des motivations de mon travail, je suis photographe, c'est aussi de faire un travail de représentation. Et c'est vrai que lorsque l'on parle des classes populaires, on le sait, il y a eu un rapport du CSA récemment, la représentativité des classes populaires dans dans les espaces médiatiques est complètement minorée par rapport à leur place réelle dans la société. Donc l'une de mes motivations...
C'est même une aberration totale de la télévision française.
C'est une aberration, et quand elles sont représentées, elles le sont de manière parfois presque clownesque. Si je fais référence par exemple aux émissions de divertissement sur certaines chaînes de télévision, on voit ces classes populaires, mais dans des représentations qui sont quelque part du divertissement qui ne correspond pas à leur réalité. Donc c'est vrai que l'une des motivations de ce travail, c'est de porter un regard qui est un regard ni bienveillant ni idéalisant, mais qui n'est pas non plus, je suis pas non plus dans le jugement. C'était le cas.
Alors,
avec les
écrans... ni idéalisant, c'est très intéressant parce que quel est le critère justement? Comment on choisit une photo? Comment on fabrique une planche de roman photo quand on a suivi ces familles du Nord à Denain pendant plusieurs semaines? Parce que il ne s'agit pas de les embellir, il ne s'agit pas de les glorifier, et pourtant vous en faites des héros. Il y a un souffle romanesque dans ce que vous racontez.
Alors c'est un travail de longue haleine. Oui. Ce qu'il faut raconter, c'est que j'ai commencé ce travail à l'automne 2016, au début de la campagne présidentielle. J'avais choisi d'aller à Denain délibérément. C'est l'une des villes les plus pauvres de France. Et je voulais raconter au début l'élection présidentielle au travers de ses habitants. Donc j'ai commencé tout simplement à me documenter, à rencontrer des habitants sur place. Et peu à peu, ce projet autour des vies mobiles et de ce territoire, c'est a mûri dans ma tête. C'est aussi l'émergence de la candidature d'Emmanuel Macron qui m'a amené à raconter aussi les premiers pas de ce quinquennat. Et concrètement, ce livre est le résultat d'une rencontre aussi avec un institut de recherche, le Forum Vie Mobile, avec lequel j'ai travaillé pour concocter en fait une sorte de casting, on va dire, qui correspond à un panel représentatif de cette ville au niveau des habitants, je dirais un panel au niveau de la sociologie. Ensuite, il a fallu, dans ce synopsis, déterminer et raconter tout simplement les vies de ces personnes. Donc c'est ce que j'appelle un peu un storyboard en temps réel, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux situations, on va travailler par séquence en fait, d'une certaine manière, et additionner les séquences.
Ouais. Voilà. Ouais. Alors justement, votre travail porte sur la mobilité, vous venez de le dire, il s'intègre dans un projet plus vaste. Est-ce que le roman photo, c'est aussi une narration qui permet des sauts dans le temps et dans l'espace, et qui vous permet également d'agréger différents points de vue? Parce que ce qui est extrêmement intéressant dans ce que vous racontez, dans les familles que vous suivez, c'est que à Denain, dans un foyer, lorsque l'un se déplace, l'autre reste.
Exactement.
La mobilité, ça se paye.
Oui. Alors, ce livre interroge la notion même de mobilité, qui est un mot apparu dans l'espace médiatique finalement assez récemment. Avant, on parlait de déplacement, de transport. Ce sont des mots qui avaient une charge finalement assez négative. Le mot mobilité finalement a remplacé le mot adaptabilité. Avant, il fallait s'adapter. Maintenant, il faut être mobile. Il faut bouger pour s'en sortir. Ça a été le maître mot et c'était central dans le discours d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle.
D'ailleurs, vous ne cessez de jouer avec ce miroir-là, la constitution d'un mouvement politique qui s'appelle En Marche, et puis face à ça, une population qui n'avance plus. Et qui ne peut plus avancer, qui est figé, pétrifié, immobilisé.
C'est une injonction morale, mais qui est une injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on demande aux uns d'être mobiles, une hypermobilité d'un salarié, d'un homme en général, puisque ce sont les hommes qui sont sur les métiers de la route, les métiers du BTP, où on est amené à beaucoup bouger.
Les
femmes restent à la maison ou sont sur des emplois de service à la personne, de care, en fait. Donc des métiers de proximité. On l'a vu d'ailleurs sur le mouvement des Gilets jaunes, les mères célibataires qui étaient très présentes, étaient plutôt dans ces professions qui sont souvent des professions mal payées.
Les gilets jaunes qui vont émerger petit à petit dans l'histoire de ce livre, ça n'était absolument pas prévu. D'ailleurs, vous ne photographiez jamais vos personnages seuls, jamais. C'est-à-dire qu'ils peuvent être représentés seuls au départ. Chaque personnage est introduit par une fiche de renseignement sur laquelle il y a sa rémunération, son niveau d'études, son âge, là où il habite, le temps de transport qu'il effectue chaque jour, chaque semaine. Mais il est toujours mis en scène dans la cellule familiale. C'est-à-dire qu'on plonge avec vous dans un monde où les solidarité intergénérationnelle, qu'elle soit souhaitée ou qu'elle soit subie, se sont peu à peu substituées aux institutions, enfin on va dire aux structures sociales traditionnelles.
Oui. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de mise en scène. Hein. C'est vraiment un travail de reportage. On prend les choses telles qu'elles sont.
S'il y a de la mise en scène, Vincent Charouzo, il y a forcément de la mise en scène. Vous avez totalement le choix. Quand vous prenez Loïc ou quand vous prenez Tanguy, vous avez le choix de les suivre totalement seuls d'un bout à l'autre, comme vous avez le choix de montrer toute l'interconnexion
Je ne demande jamais aux personnes de se positionner de telle ou telle façon. Ah, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de jeu.
Oui. Mais vous, il y a des choix de représentation.
Mais des choix, évidemment, heureusement. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur la question des familles, de la cellule familiale ou des réseaux de solidarité locaux, de voisinage, c'est extrêmement important. C'est ce que montre effectivement ce livre. On a une série de 8 portraits dans le livre et dans ces 8 portraits, il se trouve qu'il y a une famille centrale, pivot, même s'il y a plusieurs familles, hein, évidemment. Et effectivement, on voit des situations très différentes, y compris on voit les contradictions qui traversent aujourd'hui le débat public sur la question des prestations sociales. Quand Mickaël, qui est routier, raconte la vie de ses frères qui ne travaillent pas, il a 6 frères et sœurs, lui il est le seul de la fratrie à travailler, et que il considère que s'ils sont bien comme ça tant mieux pour eux, mais lui il bosse et il n'y a pas à payer pour les autres. Quelque part il raconte à lui tout seul un débat qui est extrêmement présent sur les ronds-points encore aujourd'hui, et qui d'ailleurs est posé par Emmanuel Macron quand il parle du bien fondé du RSA, par exemple.
Alors tout devient extrêmement concret avec votre travail, Vincent Charouzo. Le permis de conduire de Loïc, une histoire qui tourne c'est une espèce d'enfer quotidien, c'est-à-dire que Loïc, il est sous contrôle judiciaire, il doit avoir son conseiller tous les mois, il met 4 heures de tram, de bus, de tramway, de marche à pied pour 10 minutes de rendez-vous, et c'est pareil pour se rendre à Pôle emploi, et c'est pareil pour se rendre à chaque formation. Il est interdit de déménager là où vit la fille de sa compagne, donc toute la distance est vécue dans la chair, finalement, dans la chair, et toujours vécue comme un frein. La distance est un frein.
Oui, on vous parliez tout à l'heure des représentations et des messages d'injonction sur les mobilités qui partent souvent de Paris ou des grandes métropoles, de personnes qui n'ont pas connu les galères de transport. À Denain, il y a des réseaux de transport en commun. Oui. Il y a un tramway. Oui. Pour autant, ces réseaux de transport en commun ne correspondent plus aux réalités du travail aujourd'hui, et notamment du travail précaire qui est souvent multisitué, où les personnes sont amenées à faire différents types de trajets. Les zones logistiques, par exemple, sont souvent à l'extérieur des villes, sont très mal desservies. Et tout devient très compliqué. Tout devient très compliqué pour se déplacer, et sans compter, bien évidemment, comme je le raconte avec l'histoire de Loïc, les freins administratifs, et puis y compris parfois aussi dans les institutions associatives, les méandres des démarches qui sont pas tout à fait adaptées à des personnes qui n'ont pas forcément le bagage éducatif pour y arriver.
Alors se déplacer, c'est faire 1h30 de tram pour aller au lycée le matin pour Rodrigue et pour Alan, c'est faire du TGV, du métro et du tramway pour Adrien pour se rendre sur les chantiers, c'est faire les courses, c'est sillonner la région en fonction des promos chez Aldi, Lidl et Carrefour pour Guillaume, c'est aller en Belgique acheter des cigarettes.
Oui, c'est vrai que à la frontière belge, quand on est dans le département du Nord et que l'on vient le 5 du mois, le jour du versement du RSA, il y a beaucoup de nordistes.
Le 5 du mois, c'est quelque chose qui revient dans toutes les histoires.
Oui, alors ça, c'est pour les personnes qui perçoivent à la fois le RSA, mais aussi l'APL ou l'allocation d'adulte handicapé. Ouais. Et c'est le moment où on va avoir un peu d'argent sur son compte. D'ailleurs, il y a une blague dans le Nord qui consiste à dire qu'on habite dans le 59 parce que le 5 du mois on touche le RSA et le 9 on n'a plus rien, et c'est l'autodérision parce qu'ils le racontent eux-mêmes, mais c'est vrai qu'on voit, on touche du doigt ces réalités qui nous font sourire mais qui ne sont pas drôles dans le quotidien.
Il y a deux personnages récurrents dans vos histoires. Premier personnage, la voiture. Second personnage, la télévision. Quand on ne bouge pas, la télévision prend une importance immense.
Oui.
Loïc s'offre une télévision avec sa compagne. Ils mettent en commun leurs abonnements internet et téléphonie pour avoir 187 chaînes. Manu ne sort jamais de son salon. Mmh. Elle vit avec la télévision. Laetitia n'a qu'une hantise, c'est que son fils l'aperçoive comme quelqu'un qui glandouille devant la télé. L'écran est toujours présent.
L'écran est toujours présent. Effectivement, c'est pour une raison simple, c'est que ça ne coûte pas cher finalement. C'est un loisir d'une certaine manière qui ne coûte pas cher. Mais c'est aussi un outil de diffusion pour la consommation. On parlait de Guillaume qui fait le tour des supermarchés. C'est une prolongation de la consommation que l'on retrouve dans le quotidien de ces personnes. Si je prends le cas d'Emmanuel, par exemple, la télévision, elle ne l'éteint pas. Elle reste allumée 24 heures sur 24 comme une présence aussi rassurante.
C'est ça. Et la voiture, alors ?
Alors, la voiture...
La 309 de Guillaume.
Alors, la 309 de Guillaume qui...
Et la voiture de Tanguy ?
Qui date de 1988.
Ouais.
Guillaume, c'est quelqu'un qui ne travaille pas depuis des années, mais qui a une passion et un savoir-faire en matière de mécanique. Mm-hmm. Et pour lui, la voiture était un objet de reconnaissance sociale, mm-hmm. comme beaucoup de gens. Il y a des sociologues qui ont analysé la mécanique de rue à Roubaix, c'est assez proche. Et par exemple, Guillaume faisait part de sa colère au moment de l'annonce des renforcements des contrôles techniques, voilà, qui ont été décriés au moment du mouvement des Gilets jaunes. Parce que, quelque part...
Ceux qui ont une voiture, ceux qui aiment la voiture, c'est ça qui est extrêmement intéressant, ne s'en servent pas pour s'éloigner.
Oui, oui.
Au fond, on ne s'éloigne pas.
Parce que ce sont des véhicules qui ne permettent pas d'aller loin. Par exemple, Guillaume, très concrètement, je me racontais qu'il était hors de question pour lui d'aller trop loin avec sa voiture, puisque voilà, elle n'est pas complètement fiable pour faire de longs trajets.
Et Tanguy s'installe à 100 mètres de chez ses parents. Oui. Merci beaucoup Vincent Jarousseau. Les racines de la colère est paru aux Arènes. C'est un travail remarquable. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers.
Alors, dans Grand Bien vous
Ce
fasse.
Matin, nous recevons le grand explorateur Jean-Louis Etienne, le premier homme à avoir parcouru le pôle Nord en solitaire pendant 63 jours. Vous pouvez poser toutes vos questions à Jean-Louis Etienne au 01 45 24 7000.
Formidable. Et ce sera juste après les infos.